L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Il est 23h, ce 20 avril 1954. Nous sommes dans la région de Durbuy. La nuit règne sur la vallée de Lourdes. La ferme de Célina de Bonny est typique de la région. Dans quelques minutes, la paysanne verra la mort frapper à sa porte. Sans méfiance, quand elle ouvre le verrou, Célina se jette dans la gueule du loup. Bah, il faut dire qu'elle le connaît bien, son prédateur. Il s'agit de son neveu, Nestor. Les yeux injectés de sang, le frêle jeune homme de 21 ans est là pour une raison bien précise. La recherche d'un magot. 23h, l'heure âge de mon histoire. Une heure plus tôt, Nestor Pirotte, fils du garde-chasse d'une magnifique propriété de la région, a abandonné son vélo dans un fossé à proximité du lieu du drame. Du sac qu'il transporte en bandoulière dépasse une barre de fer, lourde, froide. Il l'a ramassée dans l'atelier de son père. Depuis plusieurs jours, il prépare son coup. D'abord, il est venu repérer les lieux. Il s'est d'ailleurs fait repérer par le voisin. Oh, le vieux a été clair. Nestor, on t'accusera si quelques méfaits se produisent dans la région. Le jeune homme repense à ce qui ressemble bien à une prémonition, mais en réalité, il s'en moque. Crachant une glaire venue du fond de sa gorge dans les fourrés, Nestor attend le bon moment. Il a appris à observer et connaître les faits et gestes de sa tante. Dans une heure, elle se mettra en robe de chambre et ira au lit. Ce sera le bon moment pour frapper. La maison du vieux prédicateur, située non loin de là, est complètement éteinte. Pourtant, il est garde champêtre, le bougre qui habite là. Mais voilà bien longtemps qu'il n'a plus la vivacité d'esprit nécessaire pour surveiller les alentours après le coucher de soleil. La pleine lune trône au milieu de la Voie lactée et de la voûte céleste. Les cheveux bouclés de Nestor reluisent sous la lumière de la lune, son nez aquilin collé dans les hautes herbes. Tel un lynx devant un écureuil, il tente de rester discret. Il faut dire que l'étable qui le dissimule est une excellente cachette. Tout y est très calme, et pour cause. La vieille a réussi à vendre tout son cheptel. À l'intérieur du corps de logis se trouve donc assurément un petit magot. Avide d'argent, condamné l'année précédente à 3 mois de prison avec sursis pour une affaire de recel, Pirotte met un coup d'accélérateur ce soir. Il va tuer, qui plus est, une personne de sa propre famille. Mais voilà une perspective qui ne semble pas l'effrayer outre mesure. Non, il attend simplement le bon moment. Son pantalon est trempé par le nuage d'humidité qui s'abat sur la campagne printanière. Déjà, les brins d'herbe se couvrent de gouttes d'eau. Sa chemise est tachée de boue et sa veste lui permet de se fondre dans un décor obscur, presque malsain. La tension monte. Les arbres qui entourent les pâturages pourraient le sentir. Ils se crispent et se tendent. Les feuilles naissantes regardent interloquées ce jeune homme qui se faufile dans les hautes herbes du fossé de la mer de Bonny. Prédateur dans la nuit, il est seul au milieu d'une campagne qui n'attend que le coup près de la sentence à venir. Soudain, il se décide. Sa montre indique 11h05, l'heure à laquelle il a programmé de sortir de sa cachette. Il s'approche de la porte, calmement, la barre de fer dans le dos. Cette dernière, froide comme un soleil d'hiver qui se lève sur le givre, lui fait hérisser l'échine. Sa concentration est à son maximum. Ses sens sont aiguisés. Lourdement, avec sa main droite, il frappe 3 coups à la porte de bois. En regardant par la fenêtre, il observe sa tante se lever de son fauteuil, attiser le feu mourant dans l'âtre et se diriger vers la porte. La clé tourne dans la serrure. Le moment fatidique approche. Un maigre « Oui ?» sort de la bouche de la tantine lorsqu'elle ouvre enfin la porte et son visage s'illumine. « Nestor !» s'écrie-t-elle dans un sourire qui en dit long sur son innocence. L'autre en face n'est déjà plus qu'une bête. Sans aucune réponse, il se jette sur elle, la plaque au sol. Le carrelage froid de la cuisine, raide et pour le moins peu amical, fait craquer le corps vieillissant de la tante. Dans un hurlement ténu, elle demande à son neveu quel cirque se joue ici. Pas de réponse non plus. La barre de fer en main, Nestor la frappe au visage. La première fois, elle hurle de douleur. La deuxième, les cris ne sont déjà plus que des gémissements. Au cinquième coup, elle cesse de bouger. Et au huitième, Pierrot s'arrête, fier du résultat. La pression ne retombe pas cependant. Il faut absolument trouver ce pactole. Alors Nestor fouille tout. Les tiroirs des meubles en bois brut, les cachettes sous les matelas et le linge de maison. Le logis, bientôt, n'est plus qu'un immense capharnaüm où un bazar sans nom est installé. Les poules qui vivent entre le dehors et le dedans, affolées, s'envolent, fiantent sur les meubles et la table de la cuisine. Le jeune homme, lui, l'écume aux lèvres, un grognement au fond de la gorge, cherche encore, toujours. Sur la cheminée, il ramasse 642 petits francs belges, l'équivalent de 15 euros. « Nom de Dieu !» se dit-il. « Mais où diable est donc le pactole de la vente ?» Pas de bol, Nestor. En prudente agricultrice, la tantine a déjà acheté un nouveau cheptel. Il n'est simplement pas encore arrivé. La tête qui tourne, le sang de sa victime partout sur le visage, la bête redevient petit garçon. Il pleure. Continue de chercher au hasard sans vraiment y croire. Il doit se rendre à l'évidence. Il ne trouvera rien, laissant sa tante morte sur le sol, sans même la recouvrir d'une couverture ou d'un drap qui servirait de linceul. Nestor défonce la porte d'un coup de pied rageur et quitte les lieux. Il récupère son vélo et pédale à travers la campagne avec la certitude que personne n'a rien vu. Le lendemain matin, comme tous les jours, le voisin vient prendre le café accompagné de sa femme. En arrivant dans la maison, ils se prennent les pieds dans le corps de Célina de Bonny. Cette dernière a le visage en bouillie. Les poules picorent des morceaux de sa cervelle étalés un peu partout dans l'entrée. Vision d'horreur. Spectacle cauchemardesque. Le garde champêtre, rusé comme un vieux renard, donne déjà un nom aux enquêteurs afin de les aider dans leur investigation. Pour lui, le meurtrier ne peut être que Nestor Pierrotte. Cette racaille de la région traîne autour de la maison depuis des jours, cachée dans les blés et les fossés. Il arguait toujours sa volonté de ramasser des fleurs, mais, mon œil, il n'avait les yeux rivés que sur la fenêtre de sa tante. Deux jours après les faits, Nestor est arrêté au domicile de ses parents. Ces derniers sont interloqués. La carrière criminelle du tueur fou, elle, vient de débuter. Nous sommes le 11 juin 1955, soit près de deux mois après le crime. Nestor Pierrotte, faisant toujours partie des effectifs de l'armée, est jugé par le tribunal militaire. Une impressionnante cohue d'avocats, de journalistes et d'officiers formant la cour gravite autour de lui depuis des semaines. Ce matin, le jeune homme s'apprête à recevoir sa sentence. Il porte un costume gris, bon marché. Sa cravate fait des peluches. En face de lui, les bardés de médailles du président et des autres membres de la cour ne manquent pas de l'impressionner. Derrière lui, il devine le parfum de sa mère et l'odeur du talc de son père. Son paternel est dévasté. Mais sa mère, fière et habillée comme à la parade, lève la figure et toise les juges. Les autres membres de la famille, eux, sont absents. Déjà, une scission qui semblait inévitable s'est opérée dans ce cercle familial meurtri. Tout à fait sain d'esprit, au fait de ses actes et de ce qu'il attend, Nestor ne se fait aucune espèce d'illusion. Il va être condamné à mort. Dès le début de son service militaire, il a pris trois mois de prison avec sursis devant le même tribunal. Et ce, après avoir volé ses copains de chambrée et en avoir passé à tabac quelques-uns. Sévère, la justice militaire est implacable. Pour Nestor, voler devient presque une activité facile, sans trop de conséquences. Du moins, c'est ce qu'il imagine. Il est consigné, mais rien de plus ne se passe. C'est là que ce Don Juan, avide de filles et d'alcool, a décidé de passer la vitesse supérieure. Le résultat en était le sordide assassinat de sa tante. Toute la durée du procès, Nestor se défend comme un beau diable, supplante son avocat même. Sa défense ? Celle d'un coup de sang, expliqué par des provocations lancées par la vieille grand-tante. Le jour où on lui demande de détailler le meurtre, il se lève, les cheveux gominés en arrière. Sa verve est déjà grande, son verbe acéré. Il s'exclame ainsi. Je questionnais ma mère. Réticente à me répondre, elle fondit en larmes. Ainsi, j'appris que depuis plusieurs semaines, elle recevait des cartes postales dont le texte l'accusait de vol. L'expéditrice était ma grand-tante. Quelques mois auparavant, ma mère avait fait un héritage que ma grand-tante revendiquait à son seul profit. Je me suis rendu chez elle. Elle promit de cesser ses envois. 15 jours plus tard, je retrouvai ma mère effondrée. Elle me montra une dizaine de cartes nouvellement reçues. Le soir même, j'allai chez ma grande-tante. Elle se mit en colère en insultant ma mère. Alors, foudrage, je m'emparai d'une pièce de fer qui était posée près de la porte et je frappai sans limite. Cette histoire de cartes menaçantes semble être une pure invention de l'accusé. Du moins, aucune preuve n'arrive sur le bureau du juge. Déjà, le jeune Nestor manipule, triture, ment. Enfin, il tente du moins. Malin comme un lynx, il voit bien que ça ne prend pas. Il s'attend pire. Ce matin-là, alors que le soleil n'a pas pointé le bout de son nez, mais que les nuages, eux, semblent envahir la salle d'audience, Nestor est perdu dans ses pensées. Sur ses talons, son avocat tente de l'inciter à améliorer sa position, se tenir droit, regarder avec respect les officiers face à lui. Mais rien n'y fait. Le jeune homme n'en fait qu'à sa tête. À l'habituel et solennel « Accusé, levez-vous », Nestor jette un regard en arrière. Son père, les larmes aux yeux, attend la conscience dans le vague. Sa mère, elle, garde cette posture hautaine et froide qui n'a en rien arrangé ses affaires. Peine de mort. Ces mots résonnent comme une déflagration. Pirotte est condamné sans appel à la peine capitale. À l'arrière, son paternel, la moustache trempée de larmes, n'arrive pas à reprendre le dessus sur ses émotions. Sa mère, elle, se lève sans un mot, sans un regard. Sa grande robe traînant au sol, telle la reine Fabiola à la sortie d'un bal, elle quitte la pièce. Pas une larme ne coule sur ses joues, ce qui irrite, comme vous pouvez l'imaginer, le jeune condamné. Déjà en détention depuis quelques mois, Nestor s'apprête à mourir. Oui, mais voilà. Les choses sont en réalité un peu plus complexes. Si dans les textes de la justice belge, la peine capitale existe bel et bien, dans les faits, c'est déjà très différent. Elle n'a plus été appliquée depuis des années et ce cas de figure ne va pas faire exception. Au début de l'année 1956, la peine de Pirotte est commuée en prison à vie et travaux forcés. Voilà un quotidien des plus reluisants qui débute pour le jeune homme qui échappe une première fois à la mort. Son quotidien en prison ne lui convient guère. Un jour, en balade carcérale, il apprend de la part d'un des forçats qui l'accompagne que les conditions de vie en institut psychiatrique sont bien meilleures. Son front tombe. Et pour Pirotte, un seul objectif désormais, se faire passer pour fou. Sa première tentative est un échec cuisant. Il décrit des déviances sexuelles plus improbables les unes que les autres, avale des quantités folles de barbituriques. Mais le psychiatre qui le reçoit n'est pas dupe. Non, non, il voit bien le jeu d'acteur joué par le jeune criminel. Il note dans le dossier un mot qui reviendra souvent, dans le cas de Nestor Pirotte. Manipulateur. Nestor ne perd pas espoir pour autant. C'est pas le genre du personnage. Il invente d'autres histoires. Hurle tout seul dans sa cellule à la mort. Agresse certains de ses gardiens. Rend la vie impossible au directeur de la prison. Au bout d'un an, il finit par gagner. On l'enferme dans un institut psychiatrique. À Tournai, dans la structure des marronniers, Pirot va vivre plus paisiblement sa détention. Il fait mine que les médicaments qu'on lui donne font effet. Les cache sous sa langue au lieu de les prendre, et les choses suivent leur cours de manière presque convenable. Les marronniers, c'est un institut de grande classe à l'époque, à la pointe. De grands professionnels de santé encadrent les patients, et Pirot va jouer avec eux. D'abord, faire mine de taire ses pulsions meurtrières, toujours bien présentes. Ensuite, commencer à distiller les informations qui pourraient les conduire à envisager sa libération. Nestor occupe également ses journées à échafauder le plan à mettre en exécution à sa sortie. Enfant, il jouait régulièrement avec les enfants du châtelain, dont son père était garde-chasse. Déjà un peu menteur d'ailleurs. Il disait à l'école qu'il était le fils du châtelain. Et les tenues qu'il faisait acheter à ses parents, le ton qu'il employait, sa démarche, sa coupe de cheveux, tout collait déjà au personnage qu'il voulait bien se donner. Acteur. Voilà une carrière qu'il aurait menée avec brio. Pour autant, c'est la voie du crime qu'il a choisie. Et rien ne semble pouvoir le faire changer de trajectoire désormais. Ce personnage d'aristocrate, il envisage de le mettre à profit à sa sortie. Encore faut-il tous les convaincre. Après 13 ans de détention dans ce centre fermé pour patients atteints de manière psychiatrique, c'est chose faite. Le directeur des marronniers, embobiné par cet homme sans foi ni loi, signe son accord afin que Nestor Pirot puisse jouir d'une liberté conditionnelle. À 35 ans, il retrouve le vent de la liberté et le frisson d'une nouvelle vie qui s'offre à lui. Mais vous allez l'entendre. Alors que nombre de gens dans son cas rêveraient d'une réinsertion dans la société, lui va s'évertuer à jouer au bandit, encore et toujours.
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, notre heure H se consacre à un destin déviant parmi les plus célèbres et effroyables de Belgique, celui de Nestor Pirot. Dès son plus jeune âge, il se fait passer pour le fils du châtelain dont son père le garde-chasse. À l'armée, il vole ses camarades et n'hésite pas à les passer à tabac. Rien ne le refroidit. Pas même le meurtre de sa tante. Condamné à la peine de mort, commué en prison à vie, Nestor se fait passer pour fou et intègre un centre spécialisé. Au bout de 13 ans, on l'autorise à sortir sous régime de liberté conditionnelle. Là, on imagine une réinsertion paisible. Eh bien, il n'en est rien. Vous allez voir, Nestor n'est qu'au début de son parcours criminel. La série de meurtres qui s'enclenche va le faire entrer dans une toute nouvelle catégorie pour la Belgique, celle des tueurs en série. Nous sommes le 14 mai 1968. Nestor Pirot est libre depuis le 23 mars. Il fait chaud et beau ce mardi. Notre homme est au volant d'une DS en route vers Genval. Il ne s'appelle pas Nestor aujourd'hui, mais Monsieur le Comte de Ribeaucourt. Il n'en est rien, bien entendu. Mais tout chez lui, de sa montre à gousset en or volée dans un tiroir à sa cravate en soie bordeaux, tout indique son rang social supposé. Pour augmenter encore cette aura aristocratique, il a trouvé une pipe dans un tiroir ébène. Le voilà qui bourre un tabac haut de gamme acheté au marchand du coin. Il attrape son briquet, allume l'instrument tout en ayant une main sur le volant. Pas bien expérimenté, il renverse un peu de tabac sur son costume en tweed. Tente de s'épousseter et, pour seul résultat, fait un écart sur la route. Il râle, toujours avec mesure, et ouvre la vitre de la voiture un peu plus en grand. Arrivé dans le centre-ville de Genval, une ville qu'il trouve jolie, sans non plus être absolument extraordinaire, il se gare à l'écart de la banque. Il prétextera que son chauffeur l'a déposé plus loin. Une envie de marcher. C'était parfait comme excuse. En ce début d'après-midi, il rencontre l'un de ses contacts réguliers depuis sa sortie de prison. Le gérant de la banque, M. Delis. Un homme gentil, sans doute un peu trop, presque naïf. Cela tombe très bien. Pirotte, qui a peaufiné ses techniques de manipulation pendant plus de 10 ans, est totalement en phase avec sa proie. Il est à sa merci, ce banquier un peu bedonnant. La première fois qu'ils s'étaient rencontrés, Nestor avait remarqué la tache de moutarde sur la cravate du professionnel de la finance. Il en avait déduit à raison, il le pensait du moins, que la manœuvre serait facile. Toujours en recherche d'argent, notre homme, qui se présente aujourd'hui comme un aristocrate venant d'une des familles les plus célèbres du pays, compte bien mettre à profit ses techniques. Dans sa veste à carreaux, un revolver chargé. Le canon froid contre sa chemise scrupuleusement repassée, il s'avance vers la porte d'entrée de l'agence. À peine a-t-il eu le temps de frapper que le gérant lui ouvre la porte en grand, la bouche pleine de sa faim de déjeuner. Une tache sur sa cravate à fleurs, de la sauce, pense Nestor en rentrant. Grand sourire, le banquier s'excuse d'arriver son repas à peine terminé et accueille notre faux comte dans son bureau. Ils sont seuls. La secrétaire est absente. Voilà déjà le deuxième rendez-vous. Nestor expose son projet au financier. Il a besoin d'une grosse somme d'argent. Officiellement, cette importante transaction doit rester secrète et se faire discrètement. Voilà pourquoi il consulte ce monsieur Delis. La première fois, il a vu que l'agence disposait de belles réserves. Aujourd'hui, il vient s'en emparer. Le gérant de la banque BBL le fait passer devant, mais Nestor reste debout. Delis, lui, s'enfonce lourdement dans son fauteuil. Il n'a pas le temps d'ouvrir la bouche que déjà, il sent le vent glacial de la mort lui parcourir l'échine. La bouche du pistolet sur le front du banquier, Pirotte appuie sur la détente sans hésiter une seule seconde. Projeté en arrière par la violence de l'impact, le gérant meurt sur le coup, repeignant son bureau de sang. Tout doucement, sans paniquer ni même jeter un regard vers sa victime dont les nerfs font encore bouger les doigts, Nestor se dirige vers le coffre en arrachant la clé de celui-ci. Le gérant l'arborait fièrement, comme un shérif au Texas durant la ruée vers l'or. Cette fois, le pactole est beau et peine à entrer dans toutes les poches de Nestor. Sans encombre, le double meurtrier se retire, rejoint sa déesse, dénoue sa cravate en montant en voiture et trace la route. Voilà ce dont cet homme est capable. Bien entendu, sa cavale ne dure pas. Grâce à des témoignages annexes et des preuves par image, Nestor Pirotte est arrêté et incarcéré une deuxième fois. Il était libre depuis 8 semaines à peine. Son seul achat entre-temps ? Une Rolex en or. Fini, les montres à gousset. Il entre dans la modernité. Son deuxième procès relève de l'absurde tant il ressemble au premier. Cette fois, il ne dépend pas de la justice militaire, mais civile. Bon, le résultat est le même. Condamnation à mort, commuée en prison à vie, comme la précédente. La première fois, le manège a fonctionné, alors pourquoi ne pas retenter le coup ? Nestor se jette d'un mur haut de 6 mètres pour feindre une tentative de suicide. En réalité, cela relève plus d'une première tentative d'évasion. Quelques mois plus tard, en début d'année 1969, l'administration, le croyant suicidaire, on le renvoie dans un institut psychiatrique. Oui, oui, vous avez bien entendu, encore une fois. Et de nouveau, il va les embobiner pour ressortir comme si de rien n'était, comme il l'a fait 11 ans auparavant. Oh, il n'a plus le charme de ses 35 ans, mais la verve de ses 46 printemps est tout aussi impressionnante. Il avait caché une partie du magot. Il devient donc le comte de Méus. Achète une voiture de luxe, ressort sa montre en or, embobine les filles et collectionne les conquêtes. Cette sortie, en mai 1980, s'accompagne de l'obligation de travailler. Nestor devient employé dans un commerce. Ce maigre salaire ne sert pas à couvrir son faramineux train de vie et bientôt, il est à sec. En novembre de la même année, il aura donc tenu un peu plus de 8 semaines. Il est soupçonné d'un quadruple assassinat. Oui, vous avez bien entendu. 4 personnes d'un coup. Tout le monde y passe, y compris le chien. Mais que s'est-il passé ? Notre homme commence par acheter un calibre 38 et invente auprès de ses proches, y compris sa maîtresse, une histoire folle de lingots d'or qui se trouverait au fond des bois de la région. Un couple de sa connaissance, la soif de l'argent facile à la bouche, sert de premier appât. Nestor Pierrotte propose de leur vendre à prix cassé afin de vite s'en débarrasser. Mise à prix, 3 millions de francs belges, une petite fortune. La remise d'argent est opérée dans le restaurant de sa maîtresse. La suite ? Nestor sort son calibre 38, abat froidement le couple, la femme qu'il fréquente, qui hurle derrière son bar, et le jeune intermédiaire qu'il avait engagé. Ah oui, le chien aussi, prend une balle dans la tête. Fin d'histoire. Sur le cahier du restaurant, le dernier nom du client qui a consommé. Nestor. Soupçonné donc, mais pas de témoin. Cependant, la justice décide de révoquer sa conditionnelle. Il est de nouveau interné. Rien n'arrête cependant l'homme en roue libre. En août 1981, en plein milieu de la nuit, il jette une corde par-dessus le mur et s'évade. Chez sa logeuse, voyant passer à la télévision son avis de recherche, il balance. Que ce cousin m'a toujours ressemblé. Encore une fois, ça passe. Nestor embobine tellement cette femme qu'elle accepte de lui faire une teinture de cheveux et de lui boucler sa chevelure. Ainsi, son nouveau personnage peut prendre toute sa place. Il remet le couvert avec le comte Deméus d'Argenteuil. Séduisant rouquin à la tignasse de feu, il prépare son nouveau coup. La nouvelle histoire est aussi rocambolesque que les autres. Sa vieille mère, la comtesse, est malade. Pour l'aider et financer des soins de qualité, il veut vendre une partie du mobilier de son château. Sa verve et son bagou font le reste. Un jeune antiquaire d'une trentaine d'années accepte de le suivre dans les bois. Nestor lui promet, au bout du chemin de terre, le château. Il marche, et Pierrotte prétend que sa voiture est en panne et que son chauffeur travaille sur autre chose. L'antiquaire avait promis de venir avec la somme convenue contre la vente des meubles. Mais méfiant, il ne l'a pas apporté sur le lieu du rendez-vous. Le faux comte de Méus est absolument hors de lui. Toujours avec son calibre 38, il abat le jeune homme d'un tir dans la poitrine. Mais à la découverte du corps, la police ne tâtonne pas. On reconnaît les méthodes de ce gredin de Pierrotte. Sur base de dire d'un informateur, il est appréhendé à Skarbek. Oh, l'arrestation est musclée. Mais l'homme est contraint de se rendre. Lorsque le patron de la police judiciaire entre dans la salle d'interrogatoire, sans se démonter, Nestor Pierrotte lui demande « Vous êtes qui, vous ?» L'air de penser qu'il était encore, au moins un peu, cet aristocrate qu'il aurait tant voulu être. Pendant le procès, les experts, encore, vont plaider la maladie mentale. Mais la justice, elle, en a ras-le-bol de ses évasions et de ses manipulations. Il est fou ? Eh bien, tant pis. Il ira finir sa vie en prison et rien d'autre. Aucune autre option n'est mise sur la table. En prison, aucun membre de sa famille ne va venir lui rendre visite. Depuis 1980, il n'a reçu aucune nouvelle. Mais si vous pensiez qu'il en était fini de Nestor Pierrotte, l'homme aux 3, mais plus probablement 7 meurtres, eh bien vous vous trompez. Ah, notre homme a de la ressource et une intelligence émotionnelle qui lui permet tous les montages, toutes les tentatives. De retour dans une cellule classique et froide, il n'a pas dit son dernier mot. Au contraire, il va passer des années à tenter le tout pour le tout.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, nous vivons ensemble l'heure H d'un criminel à la trajectoire aussi folle que son imagination sans borne. Celle de Nestor Pierrotte. Considéré comme le premier tueur en série belge, l'un des assassins les plus tristement célèbres du XXe siècle est un mystère à lui tout seul. Condamné à mort 2 fois, il se fait passer pour fou et s'évade. À chaque nouvelle sortie, il tue de nouveau. N'avouant jamais ses crimes, hormis le premier, celui de sa vieille tantine. Il invente, brode, tisse des histoires plus rocambolesques les unes que les autres. Depuis 1984, le voilà enfermé pour de bon. Peine de perpétuité incompressible. Mais il a de la ressource, Nestor. Vous allez vite le comprendre. Nous sommes au cœur de l'automne 1992. Nestor Pirotte, du fin fond de sa cellule, échafaude depuis plusieurs mois déjà un plan de sortie. Plaider la folie ? Certainement foutu. Tenter de négocier une sortie en conditionnel ? Ce sera possible le jour où les poules auront des dents. Alors que faire ? Une seule option possible. L'évasion, encore. Nestor a près de 60 ans. Il est déjà plutôt jeune. Très hautain dans son pyjama de détenu, il toise les gardiens qui passent, attendant le bon timing avec patience. Soudain, il se lance. Au moment où un des gardiens vient lui apporter son petit déjeuner, Nestor se précipite sur lui, une lame de rasoir à la main. Il tente de le menacer, de lui mettre l'arme blanche sous la gorge afin de faire pression sur les équipes de surveillance et négocier sa sortie. Je vous l'ai dit, Nestor, il a près de 60 ans. Le gaillard en face de lui, 32 moins. La tentative est un échec minable. Pirotte écope même d'un bourre pif lancé par le gardien et surtout de quelques semaines d'isolement. Il y comprend que, certainement, plus rien ne pourra le sauver de la prison, ni de cette privation de liberté qu'il insupporte. Nestor Pirotte dispose, en tous les cas, d'une capacité de séduction tout bonnement extraordinaire. Cette affaire montre aussi une défaillance crasse du système judiciaire. Son dernier avocat, que Pirotte consulte alors qu'il est incarcéré à Liège dans un quartier de haute sécurité, évoque l'allure aristocratique du criminel, alors même que ce dernier porte ses vêtements de détenu. Cet air supérieur, il était presque inné chez lui, quasiment mystique. Rendez-vous compte, Nestor consulte ce professionnel de la justice car il ne comprend pas qu'on l'enferme dans un quartier de haute sécurité. Avec son nombre de meurtres et d'évasions, pourtant, rien ne semble illogique. Mais le vieillissant criminel demande à son avocat d'assigner l'État belge à comparaître. Le voilà donc avec cette volonté de séduire face au tribunal de Liège, devant la chambre de première instance, où il va offrir au monde l'un de ses derniers coups d'éclat. Il expose lui-même ses conditions d'incarcération, sans même son avocat. Ce dernier avoue avoir été subjugué. Le président, pourtant expérimenté, lui donne raison sur ses conditions de détention. Nestor embobine encore et y parvient. De retour dans des conditions plus normales, le vilain petit canard ne va pas s'arrêter là. Quelques années avant sa mort, il demande encore sa libération devant la commission de Charleroi, jouant cette fois sur sa vieillesse et sur sa santé fragile. Mais la magie n'opère plus. Désormais, la justice s'en méfie au plus haut point. Entre 1992, date de sa dernière évasion, et sa mort, 8 ans plus tard, Nestor ne va cesser de tenter de renverser l'opinion, sans succès. Pourquoi ne pas simuler de nouveau la folie ? Rien n'y fait. Ce coup-ci, c'est terminé. Pirotte est bon pour la mort en prison. Fin juillet 2000, le 29. Il se lève barbouillé, avec la sensation d'être malade. Il fait néanmoins l'effort de sortir de sa cellule afin de passer un coup de fil. On ignore à qui il a téléphoné ce matin-là. Une admiratrice ? Un membre de sa famille ? Peu probable ce dernier point, tant il est seul et isolé. En tout cas, après cet appel mystérieux, Nestor entre de nouveau dans sa cellule pour se recoucher. Il ne se relèvera plus. Ainsi s'est éteint le plus rusé, peut-être aussi le plus loufoque des tueurs en série du plat pays. Cet homme aux esprits de grandeur, prêt à tuer pour de l'argent et pour construire ses idéaux délirants et sortant de l'ordinaire, cet homme, psychiquement malade, mais assez malin et séducteur pour embobiner nombre de professionnels, marque l'histoire de la criminalité. Il est enterré à Ham-sur-Eure. On ne sait pas quel jour, l'information étant restée confidentielle sur demande de la famille. Sa tombe est visible, mais ni plaque, ni stèle, ni figure. Une simple croix blanche, sans rien autour. Ainsi s'achève l'histoire de cet itinéraire meurtrier des plus particuliers. Je vous propose de nous quitter aujourd'hui avec une citation prononcée par l'avocat des parties civiles, Xavier Magnier. Devant les assises du Brabant, dans une atmosphère qui sentait la poudre et la deuxième condamnation à mort du criminel au début des années 1980, il s'était exclamé « Vous êtes l'enfer, Pirotte ». Nul doute qu'il y occupe aujourd'hui une place de choix. Voilà donc pour ce récit glaçant que j'ai eu le plaisir de vous partager grâce à la plume de Valjean.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.